Salut Luc.
Salut.
En fin de semaine, le chroniqueur Mario Girard dans la presse avait un papier vraiment intéressant. Il a appelé ça les cadavres urbains. C'est sur les édifices abandonnés à Montréal. Et chaque fois que je vois ça, qu'ils soient petits ou qu'ils soient gros, comme par exemple l'ancienne station d'autobus voyageurs, je me dis quel gâchis. Ici, il pourrait avoir de la vie, puis il y a juste de la mort.
Oui, puis il commençait son article avec une citation assez forte, là, je te la rappelle. « Rien n'abîme plus l'image d'une ville que la présence d'édifices abandonnés, surtout lorsque ceux-ci ont une allure noble et un caractère historique. Cela donne une impression de pauvreté, de manque de vision, de je m'en foutisme. » Donc, c'est pas simplement parce qu'on se désole pour l'édifice, c'est toute l'image que ça donne à la ville aussi, incapable de s'occuper de son histoire, incapable de s'occuper des bâtiments qui ont tellement compté dans le passé et qui ont l'air de ne plus compter du tout. Bon, lui, commençait par l'édifice, là, les gens vont qui passent par là le connaissent, le couvent des Sœurs de la Miséricorde, Saint-Hubert et René Lévesque.
Oui.
Un bel édifice en pierre, abandonné depuis plus d'une décennie, je me demande si c'est pas deux d'ailleurs. Il y en a plein. Alors, le Royal Victoria sur les flancs du Mont-Royal, cet édifice-là, qui est iconique pour Montréal, quand t'es sur McGill, c'est la plus belle vue de la montagne que tu vois là, et tu vois cette espèce de château qui donne un charme fou à Montréal, une architecture qui donne l'impression qu'il y a un château construit dans la montagne. Il y a l'Institut des Sourds et Muettes au coin de Cherrier et Saint-Denis, énorme édifice encore, magnifique, avec sa chapelle aussi qui est fermée, depuis des années. Il y en a un qui s'en vient très fort, c'est l'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu, c'est gigantesque. Ce sont des ailes.
On l'a transformé en clinique de dépistage de COVID,
oui,
mais après ça, c'est assez vide. Là.
Ben oui. Puis à côté de l'Hôtel Dieu, puis c'est pas la même chose, mais ça, c'est lié à l'Hôtel Dieu, c'est le couvent des Sœurs hospitalières qui est vide, lui, depuis au moins 5 ans aussi. Fait que là, on se dit, ben, tu sais, il y a des tels problèmes de logement. Puis, ah ben, attends, excuse-moi. Avant de te parler des problèmes de logement, je vais te parler d'une autre série d'édifices qu'on ne voit pas. Ce sont les édifices historiques qui appartiennent aux grands parcs. Quand les grands parcs ont acquis des territoires, il y avait souvent des maisons, des chalets de personnes très, très riches sur ces terrains-là, face à l'eau, etc. En acquérant le territoire, ben, ils ont acquis l'édifice aussi. Des fois, c'est des couvents aussi. Les grands parcs possèdent 70 bâtiments de toute nature, là, mais notamment des maisons extraordinaires, des joyaux, là, comme l'ancienne maison des Molson devant la rivière des Prairies avec son grand terrain vide depuis des années. Puis là, tu te dis, des chalets aussi richissimes qui ont servi de demeure à des familles riches. Et tout ça aussi, on les voit pas, mais ils sont là aussi. Donc, pourquoi
la ville permet ça? Parce que là, on parle d'immeubles de prestige, patrimoniaux, etc. Mais juste, regarde, les gens, même si vous n'êtes pas à Montréal, vous allez comprendre, le coin Saint-Denis, Mont-Royal, il y a un immeuble qui a été laissé à l'abandon pendant des années. Il y avait le restaurant Rapido là-dedans. Ça scrape la vie de quartier. T'as quelque chose qui n'est pas habité, qui n'est pas occupé. Ça tombe en ruine, ça donne une impression de désolation. Pourquoi la ville permet ça?
Bon, il y a une autre catégorie. Tu abordes la catégorie des bâtiments privés. Là, il y avait celui au coin de Saint-Hubert et Ontario, là, la gare d'autobus. Puis là, tu nommes le Rapido au coin de Mont-Royal puis Saint-Denis. Ça, c'est des bâtiments privés, c'est autre chose. Les bâtiments privés, c'est presque impossible de forcer un propriétaire à construire. Dans le cas du Rapido, par exemple, c'est une héritière qui a ça depuis des années. Puis qu'elle s'en fout, elle habite ailleurs, elle voyage à travers le monde, puis elle s'y intéresse pas. Mais là, récemment, elle s'y est intéressée, a vendu l'édifice, puis le gars qui l'a acheté a fait une démolition sans permis, etc. Mais ça, c'est assez compliqué parce que là, c'est le privé qui traîne les pieds dans bien des cas. Dans le cas de Saint-Hubert, Ontario, le privé voudrait construire, mais il veut construire des logements comme il l'a fait sur Berry et Ontario, des chambres pratiquement, rien d'autre. La ville veut du logement social, veut du logement pour les familles, il veut pas avoir juste des chambres de personnes qui passent parce que sinon ça inscrit le quartier dans une logique de temporaire, sans intérêt, le quartier se développera jamais avec des logements d'une pièce et demie. Ça, c'est dans le privé. Dans le public, tu dis, ben là, c'est moins compliqué dans le public, ça leur appartient, ça appartient à la ville, ça appartient au gouvernement. Pourquoi on les rénove pas? Pourquoi on les utilise pas? C'est à cause du coût de rénovation. Le coût de rénovation d'un bâtiment historique, là, mettons comme l'Institut des Sourds et Muettes ou comme le couvent des Hospitalières ou de la Miséricorde, si tu le rénoves historique, mais mais sans exagérer, tu sais, vraiment historique, mais sans trop respecter l'histoire, juste en y allant au plus gros, là, tu vas garder comme les principales boiseries, un escalier central, etc. 200$ le pied carré, la rénovation. Si tu fais vraiment une réparation historique, tu rénoves les portes et les fenêtres comme elles doivent l'être, tu refais les murs, les plafonds en étain, les toits en étain, etc. Ça, c'est 600$ le pied carré.
Donc, traduction, il n'y a personne qui veut acheter ça parce que ça va, tu ne vas jamais rentrer dans ton argent quand
impossible.
Tu vas le vendre ou le louer.
Impossible, ça donnerait des logements, ça donnerait des logements sociaux autour d'1 million $ quand tu es dans l'historique. Et parce qu'en plus, tu peux pas tout transformer en logement parce que souvent il y a une chapelle ou il y a un très très large corridor ou un très très bel escalier à l'entrée. Ça, tu peux pas mettre cet escalier-là dans un logement, tu sais, ou faire transformer la chapelle en logement. Et donc, tu prends ce qui reste. Des fois, c'est des bâtiments qui a peu d'histoire qui reste, comme celui de la Miséricorde. C'est déjà été un CHSLD, il reste peu. Il y a eu beaucoup de transformations. Lui, peut-être que tu vas pouvoir faire des transformations moins chères, mais il y a les normes. La ville peut plus rien construire, rénover ou posséder si c'est pas universellement accessible. Ça veut dire que tu vas devoir mettre des ascenseurs. Tu vas devoir modifier les entrées. Et parfois, ça va de soi, c'est facile. Tu modifies une entrée, c'est facile. Mais d'autres fois, comme par exemple le Grand Séminaire de Montréal, l'entrée, c'est quoi? C'est un hall avec un immense escalier. Mais tu ne veux pas détruire cet immense escalier-là. Puis j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Si c'est la ville qui le transforme, elle est obligée de le faire pratiquement, ou en tout cas de le transformer, parce que les rampes sont plus à la bonne hauteur selon les normes. Et l'ancien couvent des sœurs... attends, celle-là, c'est lesquelles? Au coin de Sainte-Catherine puis Folhomme. Je vais le retrouver, là, ça va me revenir. Mais celui-là, tu vois, il y a un magnifique escalier, ils ont été obligés de le défaire. Ils en ont gardé un, puis ils ont défait l'autre, qui était superbe. Pourquoi? Parce que les normes sur la construction des bâtiments veulent des rampes plus hautes. Et ces rampes-là n'étaient pas assez hautes. Les accès, par exemple, aussi aux mezzanines, ça prend des rampes plus hautes, puis ça prend des ascenseurs menant aux mezzanines, pas juste des escaliers. Et là, ça change tout, ça modifie tout. Les normes d'incendie, il faut que tu mettes des systèmes de gicleurs, des portes coupe-feu. Et d'autres trucs, comme par exemple, bien, surprenant, c'est que si tu transformes ça en bureau, tu es obligé de mettre l'air climatisé parce que dans les règlements avec la CSST, etc., sur les normes, tu es obligé d'avoir de la CSST.
OK, Luc, je vais résumer là, parce qu'il faut que je te laisse. Ce que tu me dis... Oui, je suis désolé. Ce que tu me dis, là, c'est que tout le monde a intérêt à les laisser tomber en ruine puis les raser après ça quand c'est plus habitable.
Ça ressemble à ça. Ça, c'est nos normes de protection de l'histoire, d'accessibilité universelle, d'incendie, de sécurité, nous poussent à faire des transformations tellement chères qu'elles ne se feront jamais. Il faut retourner à quelque chose de plus frugal. Il faudrait accepter, par exemple, souvent ces bâtiments-là, c'est des toutes petites pièces. Il faudrait accepter ces petites pièces-là, sans air climatisé, etc. Et là, on pourrait les rénover à des coûts acceptables.
Très bien. Merci, Luc.
C'est moi qui te remercie.